Radio Capi, toujours près de vous pour vous servir. Vous nous suivez depuis Kinshasa, il est exactement 18h, 19h, si vous êtes à Likasi, dans la province du Haut-Katanga. C'est l'heure de vous informer.
Radio Capi.
À la présentation du journal Lievin Mbwinga.
Bonsoir mesdames, messieurs, surtout à vous qui nous suivez sur Radio Capi. D'abord les titres de ce journal. Direction d'abord New York où la MONUSCO se dit prête à soutenir toutes les initiatives qui favorisent le retour de la paix en RDC. Elle compte aussi soutenir un éventuel cessez-le-feu en vue de mettre un terme à la guerre dans l'est de la RDC. Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, l'a dit ce jeudi devant le Conseil de sécurité de l'ONU au cours d'un briefing, vous l'entendrez dans ce journal. Diplomatie toujours, mais cette fois au pays, le gouvernement appelé à intensifier l'offensive diplomatique pour que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies soit appliquée. Dossier évoqué mardi dernier lors de la réunion interinstitutionnelle présidée à Kinshasa par le président de la République. La fermeture des banques à Goma et Bukavu a des conséquences néfastes sur tous les plans au fur et à mesure que la situation perdure. Du coup, contrebande et blanchiment des capitaux guettent le secteur des finances. L'analyste économique Dadi Salé va nous en parler. Il est notre invité. Encore une fois, bonsoir. Je le disais tantôt, la MONUSCO se dit prête à soutenir toutes les initiatives qui favorisent le retour de la paix en RDC. La mission onusienne promet également de mettre tous les moyens en œuvre pour soutenir un éventuel cessez-le-feu entre belligérants dans la guerre qui endeuille les populations congolaises dans la partie est du pays. C'est la chef de la MONUSCO qui le dit, Bintou Keïta, s'est ainsi exprimée devant le Conseil de sécurité de l'ONU ce jeudi. C'était au cours d'un briefing ouvert, suivi des consultations à huis clos sur la situation en RDC et les activités de la MONUSCO. Elle a aussi évoqué le point relatif au désengagement de la MONUSCO dans le Nord Kivu et l'Ituri, affirmant que la mission est prête à poursuivre les discussions avec le gouvernement à ce sujet. On l'écoute dans cet extrait proposé par Emmanuel Elamège.
La MONUSCO reste déterminée à soutenir les initiatives de paix régionale en cours. J'encourage toutes les initiatives de paix régionale à adopter une approche sensible au genre. Je salue la nomination de deux femmes au sein du panel de facilitateurs de l'initiative conjointe SADC-ISI. De plus, il est essentiel que le processus de Nairobi prenne en compte la spécificité aussi des femmes combattantes dans les groupes armés. La mission se tient prête également à mettre ses capacités à profit pour la mise en œuvre d'un éventuel cessez-le-feu. La détérioration dramatique de la situation sécuritaire dans l'est du pays a eu un impact majeur sur les discussions entre la MONUSCO et les autorités congolaises concernant le désengagement progressif et responsable de la mission et de la transition au sud Kivu. Les efforts du groupe de travail conjoint composé du gouvernement, de la MONUSCO et de l'équipe pays des Nations Unies pour définir les modalités de planification du désengagement de la mission des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont également été compromis car plusieurs hypothèses de planification sont désormais caduques. Cependant, la mission réaffirme sa détermination de poursuivre les discussions de désengagement et de transition avec le gouvernement.
Retenez que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC a présenté lors de la rencontre de ce jour le dernier rapport couvrant les développements depuis le 29 novembre dernier. Diplomatie toujours en marche, mais cette fois au pays, le gouvernement appelé à intensifier l'offensive diplomatique pour que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies soit appliquée. Cette question a été évoquée mardi dernier lors de la réunion interinstitutionnelle présidée à Kinshasa par le président de la République. D'autres détails dans cet extrait du compte rendu fait par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Il a été sélectionné par Jean Gando.
Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engrangé comme résultat à Doha. C'était sur le plan diplomatique très important. Et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités. Mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant. Il faut qu'on ait des modalités pratiques de l'application de cette résolution. D'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliquées. Et là, le travail va continuer. Et le président a exhorté Madame la Première ministre et le gouvernement de continuer cette offensive diplomatique pour dire à nos partenaires et amis du Congo comment nous allons rendre pratique cette résolution 2673.
Sur le terrain des hostilités, sixième jour ce jeudi après l'annonce de son retrait, l'AFC M23 toujours présent dans le chef-lieu du territoire de Walikale au nord Kivu, à la suite des menaces de groupes armés et des FRDC qui tentent de reprendre le contrôle de la zone, la situation humanitaire se dégrade dans cette partie de l'Est. Entre-temps, les habitants sont toujours en déplacement et les activités socio-économiques peinent à reprendre. Bernard Nyangi.
La situation reste volatile dans le chef-lieu du territoire de Walikale ce jeudi, au sixième jour, après l'annonce samedi 22 mars 2025 du mouvement rebelle FCM23 de son retrait de la zone sans suite selon les acteurs locaux. Selon ses sources, cette entité est maintenant entourée de villages instables sur le plan sécuritaire à la suite des attaques chaque jour depuis le début de la semaine de groupes armés Wazalendo contre les rebelles du M23. Du coup, cette situation exacerbe la crise humanitaire dans la cité où il est observé de nouveaux mouvements de population. L'enceinte de l'hôpital général de référence de Walikale, qui comptait déjà plus de 600 ménages et de personnes déplacées, enregistre un afflux de nouveaux ménages qui fouillaient vers la brousse tout autour de la cité. Certaines sources de l'hôpital renseignent que l'assistance de Médecins sans frontières Hollande, destinée aux malades auxquels se sont déjà joints des déplacés, n'est pas en mesure de couvrir les besoins. Ces sources craignent un développement des maladies consécutives à cette promiscuité.
Et puis au moins deux morts, dont un cadre de base du village Bugamba, en territoire de Nirangongo, enregistré la nuit dernière dans les quartiers périphériques de Goma. D'autres sources rapportent que deux autres personnes auraient été tuées par vendite populaire au quartier Kajet, dans l'ouest de cette ville du Nord Kivu. Par ailleurs, des tirs nourris ont été entendus dans plusieurs quartiers de la ville de Goma pendant la nuit, semant la psychose au sein de la population. Ronly Timbonera revient sur tous ces faits. Suivez.
Certaines sources parlent de bandits armés qui se seraient accrochés avec les militaires rebelles venus en intervention. C'est notamment vers les quartiers Mapendo-Joli autour de l'hôtel Eri à Birere. Cependant, les circonstances de l'assassinat du cadre de base communément appelé Nyumbakumi de Bugamba ne sont pas claires. Nos sources indiquent que ce dernier a été tué par des hommes armés non encore identifiés. En outre, la population de Nyiragongo, précisément celle des groupements Kibumba, Kibati et Rusayo, se plaint des accrochages réguliers enregistré entre le Wazalendo retranché dans le parc de Virunga et les rebelles du M23. À la suite de ces situations, la population a interdiction d'accéder à ces champs situés dans le parc de Virunga. Celle-ci n'arrive plus à accéder à ses récoltes et par conséquent, il s'observe une hausse des prix de la braise, du bois d'échauffe et autres produits issus du parc, nous expliquent des acteurs locaux. La même population se trouve souvent être victime des tirs entre le Wazalendo et le M23 dans le village à la limite avec le parc de Virunga, précise nos sources.
Nous ne quittons pas le Nord Kivu puisque les cultivateurs n'accèdent plus à leurs champs depuis deux jours autour de l'agglomération de Kibirizi. C'est au nord de la chefferie de Buto, territoire de Rutshuru. Cela fait suite, évidemment, aux violents affrontements qui ont opposé mardi soir jusqu'à hier mercredi les groupes armés Wazalendo aux rebelles du M23 AFC dans la localité de Kiasenda et ses environs. C'est à quelques kilomètres de Kibirizi sur l'axe Rwindi dans le parc de Virunga. Selon des sources locales, malgré l'occupation du territoire de Rutshuru par le rebelle du M23, cette zone de Kiasenda reste toujours sous l'emprise VDP des groupes Léopard et APCLS. Les rebelles du M23 tenteraient de les en déloger, indiquent ses sources. Situation humanitaire alarmante à Djougou, elle se dégrade davantage dans ce territoire de l'Ituri où depuis bientôt deux semaines, des combats opposent les troupes de l'armée ougandaise UPDF aux miliciens de la CODECO dans la région de Fataki. Des sources locales rapportent que de nombreuses personnes sont en détresse. L'accès aux soins est devenu un casse-tête dans la zone après la fermeture de l'hôpital général de Fataki il y a quelques semaines. L'équipe médicale des casques bleus de la MONUSCO se dit d'ailleurs débordée. Le point avec Sadiki Aboubakar.
L'hôpital général de Fatah qui est fermé depuis 3 semaines. Les médecins et infirmiers ainsi que la main-d'œuvre locale sont en fuite. C'est pourtant cette même main-d'œuvre que l'ONG Médecins Sans Frontières utilisait pour ses interventions de la région, rapporte des sources médicales proches. Les milices, sous la pression de l'armée ougandaise, exercent des représailles contre les personnes déplacées jour et nuit, augmentant ainsi le nombre des victimes civiles, rapporte des sources sécuritaires. Une situation qui affecte également les équipes médicales des casques bleus de la MONUSCO sur place, personnel traumatisé par les atrocités, stress permanent, mais malgré tout, les casques bleus continuent à apporter leur soutien aux populations locales, y compris les déplacés, dans un contexte où le niveau de violence ne cesse d'augmenter, notamment dans la région de Fatah. Au regard de l'évolution de cette crise, la situation sur le terrain va de mal en pis. Des acteurs humanitaires qui ont tout abandonné à Fatah en appellent à l'implication du gouvernement pour le retour d'une paix durable dans Djougou. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Ituri toujours, mais sur un autre chapitre, nous parlons de cette alerte de l'Organisation coopérative des organisations pour la protection des droits de l'homme, COPADH, crie à la dégradation très avancée de la route Dungu-Faradje qui va jusqu'à Arioara dans le territoire de Haru. Dans un mémorandum adressé lundi dernier au gouverneur de province du Haut-Uele, cette structure indique que cette situation occasionne une hausse significative des prix de plusieurs produits de première nécessité à Dungu. Elle appelle à une intervention rapide des autorités. Martial Kiza Biamungu.
D'après l'organisation COPADH, la route Dungu, Faradje et Arioara est jonchée de gros bourbiers qui ne facilitent pas la circulation des véhicules et même des motos. À cela s'ajoute l'effondrement du pont Zopi, ce qui empêche des véhicules transportant des marchandises de première nécessité en provenance d'Arioara d'atteindre Dungu. Conséquence, une flambée des prix des marchandises s'observe sur le marché. Les coordonnateurs de COPADH demandent aux autorités d'intervenir de toute urgence. Pascal Kirongozi.
Nous mobiliserons également la population pour faire attendre leur voix constitutionnellement dans l'attente d'une réponse rapide et d'urgence de la part de notre gouvernement.
Les ministres provinciaux de Zutepeur dans les Haut-Uele indiquent que les travaux de réhabilitation de cette route sont en cours. Afongenda Sombo rassure qu'une barque sera disponible sur la rivière Nzopi pour permettre la traversée de la population en attendant la construction des nouveaux ponts. COPADH dit craindre que cette situation n'empire si rien n'est fait avec la saison de pluie qui s'annonce. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Capi.
Place à cet appel de l'Institut congolais pour la conservation de la nature dans le territoire de Beni, au Nord Kivu. L'ICCN exhorte les agriculteurs de Mayangose à respecter les limites du parc national de Virunga. Un appel lancé mardi lors d'une rencontre avec des représentants des agriculteurs et des leaders locaux. Objectif, clarifier la situation après la destruction des champs illégalement implantés et l'arrestation de certains agriculteurs. L'ICCN insiste sur la nécessité du respect de la loi. Bienvenue Bouende, porte-parole de l'ICCN et joint par André Kitenge.
L'envahissement de Mayangose prend une ampleur inquiétante pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il s'agit d'une partie intégrante d'une aire protégée, en l'occurrence le parc national de Virunga, et dont, à ce titre, les limites sont définies et protégées par la loi. Enfin, parce que la vente des terres, comme vous le savez, dans cette zone relève d'une vaste escroquerie dont les premières victimes sont les paisibles citoyens, les agriculteurs, qui sont déjà très affectés par les différentes crises que nous avons connues et que nous continuons à connaître dans la région. Du côté de l'ICCN, nous avons insisté sur la nécessité du respect de la loi et des limites légales, seul gage de stabilité dans cette zone. Mais dans l'entretemps, nous rappelons avec insistance que Mayangose fait partie du parc national de Virunga, conformément aux limites légales corroborées par plusieurs travaux d'experts. Nous appelons à cette occasion la population à s'abstenir de toute activité pouvant le mettre en position de criminel environnemental et le mettre ainsi en conflit avec l'ordre de la République.
C'est parti depuis hier mercredi à Kinshasa avec les opérations d'identification des confessions religieuses, communautés, églises, mosquées, ONG de droit étranger et la délivrance des permis d'exercice de culte. C'était au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Le ministre de la Justice a officiellement lancé cette activité. C'était en présence notamment des archevêques, imams, tchèques, messeigneurs, révérends et pasteurs. Selon le ministre de la Justice, La phase pilote de cette cérémonie a pour objectif d'identifier chaque obédience religieuse et ses ministres des cultes œuvrant en RDC pour remettre de l'ordre dans ce secteur sous tutelle du ministère de la Justice dans le cadre des réformes de l'appareil judiciaire. Cette opération va s'étaler sur 3 mois. Partout au pays et prendre fin le 30 juin prochain. Par la même occasion, Constant Moutamba interdit le fonctionnement des églises à électrons libres et recommande aux églises isolées de se former en communauté afin de permettre à l'État d'avoir la facilité de surveillance de la profession 2 fois.
Actualité internationale.
Financement libyen, 7 ans de prison requis contre l'ex-président français Nicolas Sarkozy. Le parquet financier a requis donc ce jeudi 27 mars à l'encontre de Nicolas Sarkozy une peine de 7 ans de prison et de 300 000 euros d'amende ainsi que 5 ans d'inéligibilité des réquisitions que l'ancien président de la République a accueillies, le visage pétrifié.
L'invité.
La fermeture des banques à Goma et Bukavu continue de provoquer des conséquences sur tous les plans au fur et à mesure de la situation. Au fur et à mesure que la situation perdure, la situation est catastrophique et il y a risque de favoriser la contrebande et le blanchiment des capitaux. C'est ce que pense l'analyste économiste Dadi Salé, qui est notre invité de ce jour, de ce soir. Il s'exprime dans cet entretien accordé à Sifa Maguro.
Dadi Salé, bonjour.
Bonjour, madame.
La crise financière qui secoue les villes de Goma et Bukavu à cause du non-fonctionnement des banques n'est fait que perdurer et les conséquences sont incalculables. La population désemparée commence à demander au gouvernement de rouvrir les banques afin de leur permettre d'accéder à leurs épargnes et salaires. Comment analysez-vous cette situation en tant qu'analyste économique?
C'est vrai que la situation est très difficile parce que déjà, c'est une réalité. Nous avons un problème structurel avec notre système financier parce que nous dépendons plus des banques commerciales qui ne sont pas congolaises déjà. La politique monétaire ne favorise pas les Congolais à être clients ou bien à être bancarisés. Nous avons 6% seulement des Congolais qui sont bancarisés. Mais effectivement, les grandes opérations passent par les banques, plus ou moins une vingtaine, trentaine de banques qu'on a, mais toujours des étrangers. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une catastrophe effectivement, parce que exactement déjà les problèmes étant déjà là, là ça vient de s'aggraver. Le peu de gens qui ont leur crédit, leur épargne et leur paiement passant par les banques ne peuvent pas être servis. Le problème était là et là les problèmes deviennent doubles. Donc Bukavu, Goma, tous les endroits occupés par la rébellion, je vous assure que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, pour l'instant, tout le monde est dans une situation économique et financière catastrophique.
Oui, beaucoup de gens se posent la question de savoir si le maintien de la fermeture des banques par les gouvernements aurait un impact ou fragiliserait les rebelles ou c'est seulement la population locale.
Les deux, malheureusement. Je commencerai par fragiliser le panier de la ménagère parce que la circulation de la monnaie, comme on dit, la vitesse de la monnaie n'est pas assez grande. Ça fait en sorte que l'économie baisse. Et nous avons eu effectivement plus de 75% des entreprises qui sont des clients effectivement de ces banques-là qui ont été pillées, à l'instar de la braliment comme les gens le disent. Donc ça ne fonctionne pas. Non, la population en pâtit en termes de salaires, en termes de ventes, en termes etc. Ça ne favorise pas non plus la rébellion parce que la rébellion aimait effectivement que la situation économique puisse se rétablir rapidement pour montrer qu'effectivement qu'ils ont le pouvoir public naturellement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est ce qui cause aussi des tensions sociales. Comme vous avez vu déjà à Bukavu hier, ventre creux n'a pas d'oreille. Donc, les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour essayer quand même d'avoir quelque chose à manger. Donc, c'est une pression énorme pour effectivement le Rwanda et la rébellion qui n'ont pas le droit d'ouvrir des banques théoriquement sans l'autorisation de Kinshasa.
Autre chose, la population toujours de Goma et Bukavu a plusieurs fois prouvé sa capacité de résilience pendant les périodes de crise. Comment fait-elle actuellement? Comment trouve-t-elle des fonds Et surtout, les fonctionnaires, comment arrivent-ils à accéder à leur salaire?
Alors, c'est très difficile, mais nous félicitons un peu la résilience de la population de Goma, de Bukavu et des hommes occupés, où la créativité bat son plein et malgré tout. Mais cette situation va un peu au-delà des espérances. Parce que exactement, malgré le débrouillardisme, la mauvaise réalité est là. Il n'y a pas l'argent, ce qui fait qu'il y a plus de contrebandes. Déjà, premièrement, l'économie devient de plus en plus extravertie, dépendant du Rwanda à l'instar de la bière, des aliments de première nécessité. Ça ne profite pas trop aux Congolais, ça profite aux étrangers. Et que maintenant, la possibilité de faire un peu des contrebandes et de la monnaie, des produits, est très élevée. À Goma, par exemple, Makoro, comme on le sait, parmi les plus grands endroits où il y a des contrebandes, bandes, mais là, ça fonctionne comme vous ne pouvez même pas imaginer, effectivement, par n'importe qui, par tout le monde. Effectivement, nous avons des échos comme quoi il y aurait des faux billets, des francs et des dollars et qui circuleraient. Donc, probablement, un peu tout le gens qui font la contrebande des Kampala, des Kigali, des Kenya, voient exactement Goma, Bukavu comme des grands marchés et ils sont déjà en train de le faire. Donc, ce sont des risques qui sont clairs et que effectivement le peuple en souffre et l'économie congolaise continue à se détruire.
Professeur Dadi Salé, merci beaucoup pour cet éclairage.
C'est moi qui vous remercie.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et surtout de votre fidélité. Merci également à Pélé Kipela Mondo, à Billy Landry Betou. Excellente soirée à toutes et à tous.